Et tout de suite sur France Culture, c'est l'heure du journal présenté ce soir par Antoine Maret. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Les 27 planches ce soir sur l'éternel sujet du Brexit. Quel calendrier pour le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne? C'est le sujet du sommet extraordinaire qui se tient à Bruxelles. Benjamin Netanyahou en route vers un cinquième mandat. Grâce à une alliance avec l'extrême droite, son parti devrait obtenir une très confortable majorité à la Knesset après les législatives d'hier. La France regrette l'expulsion du directeur de l'agence France Presse à Alger. Les autorités algériennes ont refusé de renouveler son accréditation. Il a dû le quitter le pays hier soir. À la fin de cette édition, nous évoquerons la première photographie d'un trou noir qui vient d'être publiée par une équipe d'astronomes et de scientifiques internationaux. L'image a été capturée grâce à une dizaine de radiotélescopes et d'observatoires répartis autour de la Terre. Comment éviter un départ désordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne? C'est ce sujet, désormais lancinant, c'est sur ce sujet que les 27 planchent ce soir à Bruxelles. Un sommet extraordinaire qui devrait aboutir à un nouveau report du Brexit. Ce midi, Angela Merkel s'est dite favorable à un report au-delà du 30 juin. Grégoire Lery. En direct de Bruxelles.
C'est Pierre Benazet.
C'est Pierre Benazet, pardon.
Antoine, pardon. Effectivement, Angela Merkel qui est favorable plutôt à un report long 2020. Alors on parle surtout de calendrier parce que pour les 27, la perspective d'un nouveau report semble désormais faire consensus. En fait, toute la question c'est maintenant de savoir combien de temps et sous quelles conditions. La durée du report semble partie pour ne pas correspondre exactement à la date du 30 juin que demande Theresa May, puisqu'on a chez les 27 deux thèses qui doivent encore être conciliées. Il y a d'un côté ceux qui, comme l'Autriche où la France sont plutôt a priori favorables à un report de courte durée, mais cette position est évidemment susceptible d'évoluer. Il y a aussi ceux qui estiment, comme Donald Tusk, qu'il faut aller jusqu'en 2020, ou comme le Premier ministre néerlandais, qu'il faut aller jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, Donald Tusk, par exemple, le président du Conseil européen, estime que Theresa May n'arrivera pas à décrocher rapidement un vote à la Chambre des communes. Ce qui est certain, c'est que tous veulent ici éviter que le maintien du Royaume-Uni dans l'UE menace le fonctionnement de l'Union. Rien ne doit compromettre le projet européen. C'est ce que vient d'affirmer Emmanuel Macron à son arrivée. Emmanuel Macron pour qui, à ce stade, je cite, « rien n'est acquis ». Le Premier ministre belge estime que l'UE ne doit pas être prise en otage par le Royaume-Uni. Parmi les conditions évoquées ici pour ce report, personne ne veut par exemple que l'accord de sortie puisse être renégocié. Mais certains Européens voudraient aussi que le Royaume-Uni renonce à son veto pour des décisions qui ne concernent que les 27, comme par exemple le budget futur de l'UE ou les nominations des présidents de la Commission ou du Conseil européen.
Merci à vous Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Et comme chaque mercredi en prévision des prochaines européennes, on s'intéresse à nos voisins. Gros plan ce soir sur la Hongrie. Le pays dirigé par Viktor Orban mène une politique nataliste, anti-immigration, qui séduit une partie de la population. Reportage sur place de notre correspondante Florence Labruyère.
Nous, les Hongrois, on ne veut pas d'immigrants. On préfère soutenir les familles hongroises. Ce slogan omniprésent à la télévision et sur les affiches qui inondent le pays, c'est celui du gouvernement de Viktor Orban. Il vient de lancer un nouveau plan pour inciter les Hongrois à faire des enfants. Grâce à ce plan, Anna Maria et son mari, qui ont trois garçons, pourraient avoir une réduction d'impôt de 3 000 euros.
Ces réductions d'impôts, c'est bien. Ça va nous donner un bon coup de pouce. C'est une aide plus importante que les allocations qu'on avait jusqu'ici.
Nous voulons des enfants hongrois, a dit Viktor Orban. Toute une panoplie d'aides est prévue. Prêts immobiliers avantageux, aide à l'achat d'une voiture, exonération d'impôts sur le revenu pour les mères de 4 enfants. Il y a une mesure qui réjouit particulièrement Ilona, une grand-mère de 67 ans. Les grands-parents qui gardent leurs petits-enfants pourront recevoir une aide financière.
C'est vraiment bien, les parents peuvent travailler pendant que les grands-parents reçoivent un peu d'argent pour s'occuper des petits. Dans ma famille, il y a beaucoup d'enfants et tout le monde est très content de ces aides.
Mais tout le monde n'a pas droit à ces aides, comme l'explique l'analyste Tibor Zabetz.
Un tout petit cercle va bénéficier de ces mesures. Il y a tellement de critères à remplir que seule la classe moyenne aisée peut les satisfaire. C'est surtout une opération de communication. Le gouvernement dit « je soutiens la famille ». C'est un message très positif.
Cette campagne de communication séduit les électeurs. Le parti de Viktor Orban est largement en tête des intentions de vote pour ce scrutin européen.
En Israël, Benjamin Netanyahou en route vers un cinquième mandat. Après dépouillement de 97% des bulletins, son parti de droite est crédité d'autant de sièges que la liste de centre-droit. Mais son alliance avec l'extrême droite devrait lui permettre de dégager une très confortable majorité à la Knesset. Une seule ombre au tableau pour le Premier ministre, ses ennuis judiciaires qui pourraient le rattraper. Le grand perdant du scrutin d'hier, c'est donc le parti travailliste qui n'a remporté que 6 sièges au Parlement. Il défend l'idée d'une solution à 2 États. Notre envoyé spécial à Tel Aviv, Valérie Krova, a rencontré l'une des figures du camp de la paix, fortement fragilisée par cette élection.
Il s'appelle Yuval Rahamin. Il préside le forum des ONG pour la paix qui regroupe 150 associations israéliennes et israélo-palestiniennes. Yuval regrette le peu d'implication des hommes politiques sur ce sujet, pourtant essentiel pour la société israélienne.
La politique israélienne prend une forme très très nationaliste. Vous avez entendu beaucoup parler dans les dernières élections et la gauche est devenue un gros mot. Un mot qui représente tout ce qui est mal en Israël.
Depuis 2014, le processus de paix israélo-palestinien est au point mort. Les pacifistes israéliens militent quant à eux pour la solution à 2 États, une solution bien loin de l'agenda politique du Premier ministre réélu.
Il n'y a pas de politiciens qui parlent de ça. Même vous avez vu cette élection, ce débat de la paix a été mis sous la table. On n'en parle pas de paix, on parle de la sécurité. Et on ne peut pas avancer vers la paix sans avoir un consensus plus solide dans la société israélienne.
Yuval déplore la polarisation de la société israélienne, dont l'une des conséquences est, dit-il, la fracture de plus en plus profonde entre la majorité des Israéliens et les mouvements pacifistes.
Le camp de la paix a subi des échecs très très sévères dans les années, parce que ça existe depuis déjà 40 ans. Les dernières 20 ans, on n'arrive pas à grandir. On est en retraite.
En manque de leader, le camp de la paix se cherche aujourd'hui un nouveau souffle.
C'était il y a 100 jours, Jair Bolsonaro accédait au pouvoir au Brésil, un nouveau pays basculait à l'extrême droite. 100 jours plus tard, que pensent les Brésiliens de celui qu'ils ont élu? Eh bien, selon une enquête Datafolha, la moitié de son électorat se montre très critique sur ses débuts. Ils ont en particulier un doute sur ses capacités. Plus de la moitié des Brésiliens sont opposés à sa réforme des retraites, sa seule proposition pour l'instant pour relancer l'économie. À Rio, les précisions d'Anne Vigna.
Jair Bolsonaro, largement élu en octobre dernier, n'a pas convaincu sur ses capacités de gestion, selon les enquêtes d'opinion. Julia, étudiante à Rio, retient surtout attaques et bagarres avec ce président.
On a régressé plus que progressé. On a vu une série d'attaques à la société et des bagarres internes au gouvernement, entre religieux et militaires, qui se disputent de plus en plus le pouvoir. Et c'est la société qui en paye les pots cassés et nos vies ne s'améliorent pas.
Pour ses opposants comme Silviana, venue manifester contre la réforme des retraites, l'implication des trois fils du président dans le gouvernement est inédite et malvenue.
Je crois qu'il fait exactement ce qu'il avait promis, on s'y attendait. C'est une grande tristesse et un recul, il nous menace, lui et ses fils. C'est absolument irréel, les fils, normalement, ne gouvernent pas avec leur père, donc c'est vraiment fou ce qui se passe au Brésil.
Jair Bolsonaro a déclaré qu'il ne croyait pas aux études d'opinion et que ses fils l'aidaient beaucoup. Même s'il a balayé la critique, il devrait rapidement annoncer des mesures plus populaires, notamment en direction des pauvres.
18h passées de 8 minutes sur France Culture. La France regrette l'expulsion du directeur de l'agence France Presse à Alger. Les autorités algériennes ont refusé de renouveler l'accréditation d'Emeric Vincenot qui a dû quitter le pays hier soir. Il était en poste depuis presque 2 ans. Bonsoir Thibaut Cavaillès.
Bonsoir Antoine.
Paris rappelle donc son attachement à la liberté de la presse et à la protection des journalistes partout dans le monde. Mais comment expliquer donc une telle décision des autorités algériennes?
Il faut savoir déjà Antoine que cette décision a été prise alors que Abdelaziz Bouteflika était encore président. Et du coup une question se pose, cette expulsion est-elle voulue par le gouvernement actuel ou est-elle juste l'application à la lettre purement administrative, disons, d'une décision prise avant les bouleversements algériens? Elle intervient en tout cas alors que les autorités semblent durer durcir le ton face à la contestation populaire qui ne faiblit pas. Manifestations désormais contrôlées au Lansao, au gaz lacrymogène, arrestations et détentions la semaine dernière d'une dizaine de journalistes pendant plusieurs heures. La décision d'expulser Aymeric Vincenot surprend Antoine tant les signes envoyés dernièrement pouvaient donner un peu d'espoir. Il y a tout juste une semaine, le nouveau gouvernement algérien a annoncé des mesures en faveur d'une presse plurielle. Quelques jours plus tôt, son chef, Nourdine Bédoui, insistait devant des journalistes sur l'importance des médias algériens. Il disait bien des médias algériens. En tout cas, dans un communiqué, seule source d'information sur cette affaire, l'AFP dénonce une décision inacceptable et précise que dans ces conditions, hors de question de nommer un nouveau directeur à Alger, dit le communiqué. Et précisons que le bureau à Alger continue de fonctionner avec trois journalistes locaux et des envoyés spéciaux.
Merci à vous, Thibaut Cavaillès. Nouvelle journée d'audience dans le procès en appel d'Abdelkader Mera. Le frère de Mohamed Mera est à nouveau jugé pour association de malfaiteurs terroristes et complicité. Et aujourd'hui, Florence Turm, les accusés, notamment Abdelkader Mera, ont longuement pris la parole pour une audience qui a marqué la fin de l'examen des faits.
Oui, Abdelkader Mera s'est réconcilié avec celui qu'il continue à appeler mon petit frère, 3 semaines seulement avant les attentats de Toulouse et Montauban. Et la présidente l'interroge sur leur relation. J'aurais aimé le ramener dans un parcours religieux, commence l'accusé, voix traînante à l'accent toulousain, pas toujours audible, mais il avait son parcours à lui, moi, mon parcours à moi, lui. Il a choisi les actions violentes. Abdelkader Mera esquive souvent les questions, notamment celles portant sur les 17 fichiers audio suspects enregistrés dans son iPod. De la même manière, il se lance soudain prolixe dans une explication assez confuse des préceptes religieux de l'islam. Puis revient le sujet essentiel du vol du scooter, de sa présence lors du forfait commis par son frère, élément central de l'éventuelle complicité que la cour d'assises n'avait pas retenue lors du premier procès. Vous en pensez quoi de votre implication, insiste l'avocat général. De ma présence à un vol du scooter à la complicité d'assassinat, je pense que c'est parti trop loin, répond l'accusé sur le même ton. Comme Mohamed Mera est mort, il n'y a plus d'os à ronger. Je suis, dit-il, l'os à ronger. Devant lui, Éric Dupond-Moretti s'agite, proteste, invective l'accusation. Ils ne sont pas venus chercher la vérité, ils sont venus chercher la condamnation, lance l'avocat. La présidente suspend l'audience pour ramener le calme. Abdelkader Mera, lui, n'a rien changé à son attitude, impassible quand Feta Malki a craqué en fin de matinée. On l'accuse d'avoir fourni une arme et un gilet pare-balles à Mohamed Mera, mais je ne savais pas ce qu'il allait en faire. Je comprends que les familles aient de la haine contre moi, poursuit-il, les larmes aux yeux. Certes, je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas un assassin et je m'en voudrais toute ma vie.
Merci à vous, Florence Turm. On va maintenant parler des conditions pour les personnes transgenres en prison. À Fresnes, à Lille et Caen, les détenues femmes transgenres n'ayant pas changé de sexe de façon chirurgicale sont incarcérées dans des prisons pour hommes. Pour éviter toute agression ou complication dans les quartiers généraux, elles sont souvent placées en quartier d'isolement, Maud Calvez.
À Fleury-Mérogis, c'est automatique. Cellules individuelles, détenues qui ne se croisent quasiment pas, baladent seules. L'accès au traitement hormonal est également très compliqué. Jude Joubert, délégué régional de l'association Genepi, dénonce une double peine pour ces détenues transgenres.
La seule promenade à laquelle elles ont accès, c'est une salle qui fait à peu près l'équivalent de 2 cellules, dont le plafond est grillagé. Elles n'ont pas accès aux cours, elles n'ont pas accès aux ateliers pour le travail. Elles sont transgenres, mais ce sont des femmes en fait. Et donc il n'y a pas de raison qu'elles ne bénéficient pas des mêmes protections, et je mets d'immenses guillemets à ces mots, que les autres femmes détenues, à savoir par exemple être fouillées par des agents qui correspondent à leur genre, puisque là en l'occurrence à Fleury-Mérogis, ça veut dire qu'elles sont fouillées par des hommes par exemple.
Philippe Stève le reconnaît, c'est aussi un moment embarrassant pour les surveillants pénitentiaires. Délégué au syndicat de défense des policiers municipaux, il a travaillé quelques mois à Fleury-Mérogis. Selon lui, il serait préférable de créer des quartiers spécifiques. L'Italie a bien construit une prison pour personnes transgenres en 2013, mais en attendant, l'isolement, ce n'est pas si mal pour Philippe Stève.
En fait, c'est plutôt mieux que le reste de la détention, le quartier d'isolement. À moins qu'on veuille beaucoup de compagnie, mais si on veut être tranquille, c'est beaucoup plus calme, les surveillants sont beaucoup plus disponibles, etc. Ça, c'est une bonne chose. Bon, la solitude, ils ont aussi droit aux visites par loire, ils ont aussi droit à leur avocat, ils ont aussi droit à un certain nombre d'activités, comme tous les autres détenus.
En 2010, le contrôleur général des lieux de privation de liberté publie un rapport au journal officiel. Il accable le manque de soins en prison, des droits délivrés au cas par cas. De son côté, l'Observatoire international des prisons réclame une meilleure formation du personnel à la question transidentitaire.
Et le reportage de la rédaction de ce matin s'est intéressé à la transphobie hors des prisons. Il est à retrouver sur franceculture.fr. La Cour européenne des droits de l'homme s'exprime sur la GPA. Elle vient de rendre pour la première fois un avis consultatif dans une affaire de gestation pour autrui, une affaire emblématique, celle des jumelles Ménesson. Deux jeunes filles nées d'une GPA il y a 18 ans en Californie et dont la mère d'intention, Sylvie Ménesson, n'est toujours pas considérée comme leur mère en France alors qu'elle l'est aux États-Unis, tout simplement parce que la GPA reste interdite en France. Bonsoir Jade Péchira.
Bonsoir.
La CEDH n'interdit pas à la France d'interdire la GPA en France. C'est plus subtil que cela. Elle dit en fait que la filiation doit être reconnue entre la mère d'intention et les enfants nés à l'étranger au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Il faut que le droit offre cette possibilité de filiation, y compris lorsqu'il n'y a aucun lien biologique, affirme la Cour européenne des droits de l'homme. La question, c'est de savoir comment retranscrire ce lien. Et ici, faute de consensus européen, la CEDH laisse la main aux États membres. Aucune obligation de reconnaître automatiquement la mère d'intention comme mère légale. Il y a d'autres voies et la CEDH de suggérer l'adoption. Autrement dit, cet avis ne remet pas en cause l'interdiction de la GPA en France. Une victoire en demi-teinte pour les époux Ménesson qui ont toujours rejeté l'idée de l'adoption. Eux souhaitaient une retranscription exacte des actes de naissance des jumelles Fiorella et Valentina. Sur le document délivré par les autorités américaines, le père Dominique, qui a donné ses gamètes pour une fécondation in vitro, est considéré comme le parent biologique. Et la mère d'intention, celle qui désire et élève les enfants, Sylvie, apparaît comme la seule mère. Chose impossible en France, puisque la mère reste celle qui a accouche. Depuis peu seulement, les enfants nés par GPA à l'étranger peuvent avoir un deuxième parent légal, mais cette reconnaissance doit passer par l'adoption, comme le suggère et le valide donc quelque part aujourd'hui la CEDH, sans aller plus loin. Victoire aussi donc en un sens pour les anti-GPA qui saluent via un communiqué de la Manif pour tous un coup d'arrêt à la reconnaissance de ce concept de filiation d'intention. Chacun voit midi à sa porte.
Il aura fallu 5 ans de procédure pour l'UFC Que Choisir et après Twitter et Google, l'association de consommateurs a fait condamner Facebook par le tribunal de grande instance de Paris pour des clauses jugées abusives dans ses conditions générales d'utilisation. Dans un jugement de 300 pages, les magistrats considèrent que 7 clauses sont correctes et 430 vagues, voire peu compréhensibles et obscures. La société américaine est condamnée à payer 30 000 euros de dommages et intérêts, une somme dérisoire pour elle. Mais l'UFC Que Choisir se félicite néanmoins de cette décision, car selon son responsable juridique, elle permet aux internautes de prendre conscience de l'usage qui est fait de leurs données. Raphaël Bartholomé est responsable juridique à l'UFC Que Choisir.
On se félicite parce que c'est le troisième temps, après Twitter et après Google. On se félicite parce que l'objectif, c'est de permettre à chacun de se rendre compte de ce qui est fait et de reprendre la main sur ces données. Toutes les conditions générales entre 2013 et 2016 sont considérées comme abusives, c'est-à-dire que tous les utilisateurs, toutes les personnes qui ont consulté ponctuellement Facebook, bien, leurs données ont été collectées de façon illégale. Mais les juges ne mettent pas ça dans la balance. Ils considèrent, par exemple, que ces clauses, eh bien, aujourd'hui ne sont plus appliquées. Et c'est souvent cette échelle-là de sanctions qui est prononcée. 30 000 euros, c'est 17 secondes du chiffre d'affaires de Facebook. Ces 30 000 euros, pour eux, il n'y a pas un enjeu. On le fait pour, et là où ils sont sensibles, pour le faire savoir que chaque utilisateur ait bien conscience qu'en allant sur Facebook, en s'inscrivant sur Facebook, eh bien, on allume un aspirateur à collecte de données, un aspirateur qui va tout collecter, tous vos historiques, votre date de naissance, votre numéro de téléphone, vos historiques de recherche. En principe, la réglementation nous dit que Facebook doit être transparent sur ce qu'elle fait, ce qu'elle envisage de faire de vos données, pour ensuite vous demander votre accord express, éclairé. Facebook ne demandait rien, mais par contre, collectez tout, et avec une exploitation industrielle de ces données.
Raphaël Bartholomé au micro de Marie Viennot. Et on termine ce journal par un rond sombre sur un disque rouge-orangé. La première photographie d'un trou noir vient d'être dévoilée aujourd'hui par une équipe d'astronomes et de scientifiques internationaux. L'image a été capturée grâce à une dizaine de radiotélescopes et d'observatoires répartis autour de la Terre. Sophie Bécherel.
Le trou noir est une région de l'univers où la gravité est si grande que rien, ni matière, ni lumière, ne peuvent s'échapper. Par définition, puisqu'ils sont noirs, il est difficile de les détecter. L'astuce a donc été d'observer le contraste qu'ils créent sur un fond brillant, celui d'une galaxie dans laquelle ils se trouvent. En observant le gaz en rotation autour du trou noir, il a été possible de distinguer son ombre. L'image qu'on découvre aujourd'hui est celle prise en avril 2017 par 8 radiotélescopes simultanément. Deux cibles étaient visées dans deux galaxies suffisamment proche de nous, la nôtre, la Voie lactée et Messier 87, et c'est le trou noir de Messier 87 qui se dévoile aujourd'hui. Il est à 50 millions d'années-lumière, il fait 6,4 milliards de fois la masse du Soleil. Un trou noir hyper massif où la matière est si condensée qu'il faut imaginer faire rentrer la Terre dans un dé à coudre. Frédéric Guth est directeur adjoint de l'Institut de radioastronomie millimétrique.
Le trou noir lui-même, on ne peut pas l'observer, on l'observe par contraste. Donc on observe la matière qui est autour du trou noir, qui forme un espèce d'anneau lumineux, et au centre, eh ben, il n'y a rien. Au centre, il y a un trou qui est noir, c'est le trou noir. C'est l'horizon du trou noir, c'est-à-dire c'est la zone dans laquelle tout ce qui rentre ne pourra plus jamais ressortir, que ce soit la matière ou que ce soit la lumière. Quelque part, ce qui est remarquable, c'est que ça correspond exactement à ce qu'on attendait. On a vraiment là l'image qui était prédite par tous les modèles de la relativité générale et des trous noirs en rotation. Donc c'est vraiment une immense satisfaction intellectuelle, quelque part, de voir ça, qui est complètement confirmé par les observations.
Demain, météo inversée en France, du soleil au nord, des nuages et de la pluie au sud, température homogène l'après-midi, 9 au Havre, 11 à Beauvais, 14 à Paris, 18 à Marseille. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun. Prochain journal à 22h avec Stanislas Vazak.